L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Et oui, l'Afrique dans tous ses états, mais nous sommes, nous, dans notre état.
Dans notre état.
Notre état. Merci Marie-Claude d'être à nouveau là ce matin.
Bonjour,
pour faire cette émission. Alors, nous avons évoqué la petite enfance la dernière fois.
Oui.
Et nous avons trouvé que c'était un sujet qui méritait une continuation, une continuité, un prolongement. Mmh. On va plutôt parler là de l'enfant pubère, finalement.
Oui, de l'enfant et l'enfant pubère. Oui, comment... Enfin, on s'était déjà un petit peu interrogé sur comment, après cet enfant-là, qui est tellement porté, enveloppé, allaité, etc., comment après il grandissait. Et c'est vrai que, bon, je pense que je l'avais déjà dit, mais je peux le redire, c'est que, du coup, après, quand on le lâche, il a une très grande autonomie, l'enfant. Hein, il est vraiment beaucoup... il n'est pas couvé du tout. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Puis, bon, l'habitat, là-bas, est un habitat ouvert. Hein, ça donne dans une cour principale où toutes les habitations donnent, toutes les chambres, salons, comme ils appellent, etc., même en ville. Hein. Sinon, c'est une case en brousse. Et l'enfant, il est vraiment, il sort avec des copains, il joue toute la journée dans la terre, dans la... Voilà, là-bas, c'est de la latérite rouge. Il y a donc cette poussière rouge. Et il a une grande, grande liberté d'action. On évoquait effectivement sa robustesse physique, hein, le fait qu'il était très stimulé. Et donc, effectivement, très vite, il prend son envol et il sort, et etc. Par contre, il est toujours soumis, chaque fois qu'il se passe quelque chose, qu'il fait quelque chose de pas bien ou d'interdit, là, ça rigole pas. Et c'est vrai que c'est des châtiments, beaucoup de châtiments corporels. Hein. La chicotte, ça, c'est un vestige de la colonisation, puisque les colons prenaient la chicotte pour chicoter leurs ouvriers, leurs employés.
Et c'est encore un terme très utilisé en francophonie,
Afrique
de l'Ouest.
Voilà. Et donc,
chicoter.
Voilà, les chicoter. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'ai été souvent... au début surtout, parce qu'après j'avais compris. Au début, j'avais visité aussi mon premier séjour, j'avais aussi visité des classes. Alors, des classes, c'est hallucinant, hein. 120 gosses, hein, dans une classe, qui courent tous pour vous dire bonjour. Et comme les classes, elles sont moins bien que nos routes, c'est-à-dire il y a des trous, et à un moment il y a la poussière qui est là, et les enfants qui courent pour vous dire bonjour, il y a de la poussière partout dans la classe, et ils vous disent bonjour madame, enfin vraiment c'est, et donc c'est un même mot. Mais alors les gosses, ils sont vraiment, c'est sûr qu'ils sont pas du tout couvés, et que pour les enseignements il faut que vraiment ils aient envie aussi. Voilà, c'est vrai que la précarité de la vie là-bas fait que aussi on n'est pas toujours à l'écoute et très attentif, et que l'enfant il grandit comme ça. Alors, c'est vrai que petit, il y a la malnutrition, mais qui peut perdurer et qui peut d'ailleurs déclencher des comportements même chez l'enfant qui vit cette pauvreté de sa famille, qui bien sûr a un impact direct sur lui. C'est-à-dire que peut-être un enfant ici, quand les parents ont des problèmes d'argent, bon, ça passe un peu inaperçu parce qu'on a à cœur qu'ils aient bien à manger, puis qu'ils aient bien de quoi jouer, et maintenant leur tablette, etc. Là-bas, c'est pas du tout le cas. Donc, quand déjà on n'a pas de quoi se nourrir tous les jours, donc les enfants sont très très concernés.
Et l'école n'est pas toujours gratuite dans tous les pays.
Et l'école n'est pas toujours gratuite, d'ailleurs.
Rarement, d'ailleurs, elle est gratuite.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le Burkina Faso, donc, où je vais depuis 25 ans, quand j'y suis arrivée, il y avait encore un petit peu vestige, parce que c'était Thomas Sankara, le président, qui avait rendu l'éducation gratuite. Moi, j'ai eu une copine là-bas, qui était polio en plus, donc d'un milieu très pauvre ouagalais, et qui était comptable, et qui m'avait dit, tu sais, moi, si j'ai pu aller à l'école, c'est grâce à Sankara, parce que mes parents n'avaient pas, et elle était polio en plus, donc elle avait pu... Bon, après, elle s'est mariée avec un Français, elle est venue vivre en France, mais elle a grandi, et c'était grâce à Sankara, et d'autres, tant d'autres comme ça. Et c'est vrai qu'après, de nouveau, la scolarisation, mais même s'il y a une gratuité d'inscription... ce qui a plus été le cas. Alors, je ne sais pas si c'est revenu un petit peu, parce que comme le gouvernement a changé, on a renversé quand même le président qui ne faisait pas que du bien à son pays. Et donc, il est parti, on l'a poussé à la démission. Je ne sais pas, mais de toute manière, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, tout est payant là-bas. Comme quand on va à l'hôpital, quoi. Hein, c'est-à-dire, en hôpital, vous devez payer déjà la bouteille d'alcool, la ouate pour le coton pour les pansements, tout. Et à l'école, c'est pareil, il y a tout à fournir, y compris... payer le matériel de l'enseignant, la craie de l'enseignant, etc. Donc, vous imaginez bien que pour des gens très, très pauvres, déjà, que l'enfant puisse à peu près être habillé, non pas de guenilles, mais vraiment C'est déjà un exploit, alors en plus, voilà. Et c'est vrai aussi que là-bas, quand on s'y rend, on ne se rend peut-être pas compte, parce que, bon, moi, j'ai fait partie des générations post-68 tard, où il ne fallait pas trop parler des uniformes, etc. Mais là-bas, et dans beaucoup de pays africains, entre autres, et pas qu'en Asie aussi, je crois, il y a un uniforme pour les enfants, et... c'est une fierté pour l'enfant, parce que quand une famille peut faire coudre, comme on dit, un uniforme à son enfant, souvent ils sont bleus, bleu marine, enfin bleu clair, quand on peut faire, et que l'enfant peut être habillé comme tout le monde, c'est déjà énorme. Donc il y a déjà une fierté rien que ça, et l'envie d'étudier à ce moment-là, elle est encore plus présente, quoi. Donc,
et méritoire finalement.
Et méritoire, voilà.
C'est une énergie est déployée.
Et voilà, et en période d'examen, vous avez les enfants qui sont dans la rue, ou les jeunes pré-ados, ados qui sont dans la rue, ou dans les lycées, les établissements scolaires sont illuminés la nuit. Et les enfants vont soit étudier sous les réverbères, parce que souvent, il n'y a pas... Moi, j'ai vu ça, hein, j'ai vu un jeune homme, c'est maintenant un adulte, hein, professeur de philosophie, qui a même des postes de responsabilité au ministère de l'éducation. Mais moi, je l'ai vu étudier à plat ventre, sur une natte, avec une lampe pétrole à côté. Il avait un cahier extraordinaire qui m'avait vraiment émerveillé. Bon, et c'est resté, d'ailleurs, on est resté en contact. Enfin, vraiment, c'est pour dire que pour les enfants, il y a vraiment... C'est vraiment une fierté, et de pouvoir étudier, c'est vraiment merveilleux. Alors évidemment, après, quand on est dans la détresse sociale, quand on vit dans une ambiance dure, difficile, etc., on n'est pas toujours enclin à étudier, mais quand on est quand même porté par des parents qui ont envie de s'en sortir, et dans les villages, c'est la même chose, hein, dans les villages, il y a beaucoup d'enfants qui n'y vont pas à l'école, parce qu'il faut garder les troupeaux, parce qu'il faut travailler dans les champs, etc., etc. Donc, voilà comment grandissent les enfants là-bas, avec vraiment une espèce de grande autonomie, et en même temps savoir quand même que quand on fait une bêtise, on est durement puni. Et on ne s'en plaint pas, parce que moi j'ai vu des enfants recevoir des fessées, enfin des papas que des fessées d'ailleurs, c'était terrible. Et en même temps, bon, mais l'enfant il le sait, et voilà, il est comme ça. Et... Alors il y avait un phénomène aussi dont j'avais peut-être évoqué les dernières fois, c'est quand même les enfants sans identité. Hein, alors, ça...
Qu'en est-il ? Qui sont ces enfants sans identité ?
Alors, ce sont des enfants qui naissent dans des milieux très, très pauvres, avec beaucoup dans le grand dénuement. Voilà. Et du coup... alors, en brousse, déjà, il y a aussi la question de l'opportunité d'avoir une mairie annexe à proximité, ce qui n'est pas toujours le cas. Et en ville, qu'on vit dans des milieux tellement démunis, voilà, que on va pas déclarer son enfant, voilà. Puis en plus, il y a des enfants qui sont des fois issus de viols, voilà, des grossesses bien sûr non désirées très souvent. J'ai des mamans très jeunes, hein, à peine pubères, etc. Voilà.
Et je vous propose peut-être, avant de vous engager dans cette réflexion,
oui,
peut-être un temps,
d'accord,
on passe votre premier morceau musical, oui. Marie-Claude, et tout de suite après, on reparlera en consistance des enfants démunis, sans identité.
Alors, j'ai choisi égoïstement la Cora, que j'aime beaucoup, je vous impose. C'est alors un morceau de Toumani Diabaté et Balaké Sissoko, donc un beau duo là, qui se sont bien rencontrés pour faire un duo de Cora. Voilà. Thank you.
c'est l'Agora d'Abaté qui a été choisie par Marie-Claude Siakezak pour cette émission L'Afrique dans tous ses états, consacrée à l'enfance et notamment à l'enfance sans identité.
Sans identité, voilà. Donc, il y a des grandes études d'ailleurs qui ont été faites parce que c'est un phénomène qui se propage sur une grosse partie de l'Afrique. Après, moi, l'Afrique du Sud, tout ça, je ne connais pas, mais là, je connais Ouest et Centre. Et donc, ce sont des enfants fantômes qu'on appelle, et entre autres, au Burkina Faso, il y en a. Il faut savoir que 27% des enfants de moins de 5 ans dans le monde n'ont pas d'état civil.
C'est ça, dans le monde. Sans identité, c'est vraiment l'identité au sens
non pas d'état civil,
administratif du terme.
Tout à fait, au sens administratif du terme. Et donc, en Afrique de l'Ouest, et particulièrement au Burkina, c'est 23% des enfants. Voilà. Et il faut savoir que du coup, ils n'ont pas d'identité, ils ne peuvent pas aller à l'école. Là, je lisais l'autre jour un petit reportage d'une ONG qui était partie là-bas et qui avait vraiment un enfant qui fondait en larmes, qui sanglotait parce qu'il ne pouvait pas être inscrit. On parlait tout à l'heure de l'accession justement à la scolarité qui était considérée quand même souvent comme une bénédiction. Hein. Et cet enfant était en sanglots complètement parce que comme il n'avait pas d'identité, on ne pouvait pas l'inscrire à l'école.
Mais comment est-ce qu'un enfant peut ne pas avoir d'identité ?
Ben, parce que là-bas, ça grouille, comme on dit, la population.
Il n'est pas inscrit à la...
Il est inscrit nulle part, De toute façon, c'est pas tous les enfants. Alors, il y a un taux de plus en plus important, il y a des campagnes qui sont faites, il y a quand même des États qui essayent malgré tout de faire des démarches et de faire des accords, justement, pour favoriser tout ça. Mais c'est pas tous les enfants qui sont inscrits à l'école, de toute façon, et il n'y a pas de moyens de recensement. Enfin, les recensements, moi, ça m'amuse d'ailleurs quand on fait des recensements, notamment au Burkina, parce que quand on sait, enfin moi j'ai vécu par exemple la petite bonne Mariam, la petite bonne de Christine, de mon amie Christine, qu'elle avait prise, c'était un peu comme sa fille à un moment, tellement elle venait d'un village si pauvre, dont elle était partie pour essayer de gagner sa vie en ville, et puis Christine l'avait découverte, donc, et cette petite, elle s'est faite engrosser, alors en comme ils disent, par un musicien de passage qui évidemment n'avait rien à faire. Et donc, à un moment, il a fallu qu'on s'y mette. Alors moi, je m'y suis mise avec un ami éducateur de rue qui m'a aidé un petit peu à argumenter avec cette petite pour qu'elle se décide à déclarer son bébé qui avait déjà plusieurs mois. Il avait 7 ou 8 mois, je crois. Et il a fallu qu'on s'y mette à deux pour argumenter, etc., etc. Et on a dû faire venir son frère aîné du village. Alors, je ne sais pas si c'était même père, même mère, parce que comme là-bas, la polygamie, c'est très courant encore, qui est venu et qui a dû signer des papiers, qui a dû faire des... Oui, qui a dû être d'accord pour signer des papiers pour, quelque part, endosser la responsabilité de la déclaration de cet enfant. Et quand c'est comme ça, je vous avais raconté l'autre jour l'histoire de l'enfant, du garçon qui avait fondu en larmes parce qu'en fait, il ne connaissait pas ses parents et qu'il ne les connaîtra jamais parce que les parents étaient repartis chacun de leur côté, etc. Et qu'on lui avait fabriqué une identité complètement... Voilà. Donc... Et tellement d'enfants, je sais pas si j'ai raconté aussi cette histoire, qu'un jour où je revenais, j'étais à l'hôtel avant de mon retour, et puis j'ai un ami qui devait nous accompagner, le train est toujours de nuit, donc j'allais dans la chambre pour prendre ma douche, et puis il y a une petite qui s'approche, une petite jeune fille, toute jeune, très, très jolie, elle avait un truc dans le dos, et moi je pensais qu'elle allait venir me proposer de l'artisanat, quelque chose comme ça. En fait, elle avait un bébé, un tout petit bébé, dans le dos, très propre, vraiment avec vraiment une jolie tenue. Enfin, elle avait un joli pagne pour le tenir, etc. Elle était visiblement avec sa fratrie, un frère et une sœur. Et en fait, elle me proposait de me donner son bébé pour qu'il ait une chance, quoi. Et des choses comme ça. Moi, j'en ai eu des propositions de bébé, on m'en a fait plein. Et là, j'étais vraiment. Et là, il y a un monsieur qui est venu à ma rescousse. C'était dans l'hôtel. Il y avait des petites cases. Il était la case à côté de la mienne. Il est venu à ma rescousse. Il lui a parlé en moré, ce qui est la langue de Ouaga. Et je lui ai dit, moi, je ne peux pas prendre ton enfant. Il faut qu'il soit déclaré. Il faut le dire, donner à l'action sociale. Alors, vous pensez, un bébé qu'on veut donner, vous pensez bien qu'il ne va pas être déclaré. on va pas le déclarer, puisque déjà, on sait même pas, on va pas pouvoir peut-être le nourrir, on va être obligé de s'en séparer. Et du coup, les liens là qui peuvent se faire à un moment. Alors, après, c'est pareil, il faut envisager le sevrage, parce que sûrement elle l'a laité. Mais enfin, je veux dire, c'est des choses, c'est impossible, quoi. Donc, voilà, après, elle a demandé où était l'action sociale, mais elle voulait y aller tout de suite, parce qu'elle avait décidé, donc, elle devait vouloir avoir hâte d'en terminer, parce que ça devait être un peu compliqué pour elle quand même. Mmh. Et le monsieur lui a expliqué l'action sociale, il lui a dit, il faut que tu attendre demain matin parce que là tu auras pas, voilà. Donc pour dire que vraiment, et les enfants comme ça, il y en a à pléthore, et il y en a beaucoup dans la rue du coup aussi, puisqu'ils sont quasiment abandonnés, ils survivent comme ça. Et là, un recensement récent, il disait qu'à Ouagadougou, il y avait près de 10 000 enfants qui vivaient dans la rue et qui n'ont pas donc d'état civil. Ils ne peuvent même pas dire leur âge, leur origine, ils connaissent pas. Et il y a vraiment des traumatismes qui sont liés à ce problème identitaire. Moi, j'avais vécu cette anecdote, que je vous avais racontée, mais voilà. Et pour eux, ça développe énormément. Ça, c'était un confrère, un psychologue qui parlait, qui avait fait cette recherche. Voilà, donc, voilà. Alors, pas de scolarisation. Alors, déjà que c'est compliqué d'être scolarisé, quand on n'a pas d'état civil, c'est encore autre chose. Mmh. Voilà.
Et ces enfants, quand ils deviennent adolescents, ça se complique encore plus.
Quand ils deviennent adolescents, ça se complique. C'est-à-dire que, alors là aussi, ce sont des choses qui sont apparues tardivement. C'est-à-dire que la notion d'adolescence n'existait pas vraiment, puisqu'en fait, l'adolescence là-bas, c'est quand même, il y a souvent des rites initiatiques, notamment la circoncision. Je ne sais pas exactement à quel âge c'était ou c'est, puis ça s'est un peu modifié avec les années, et surtout en ville. Mais il y a quand même des rites comme ça, comme nous, on avait la communion solennelle, enfin des choses qui marquaient un petit peu notre histoire. Et là, il n'y avait pas tellement de cette notion-là, puisque l'adolescent, quelque part, bon, il intégrait un autre système, etc. Et moi, je l'ai découvert avec le VIH, où quand même, là, il y a eu beaucoup de révoltes d'adolescents hein, qui étaient révoltés, soit d'avoir eux-mêmes la maladie. Moi, j'en ai connu un que j'aimais beaucoup, Roland, qui était un garçon exceptionnel, très intelligent, qui est mort il y a très peu de temps. Voilà, il a eu, je crois, un problème de dosage de médicaments. Il y en a qui arrêtent de prendre le traitement, qui en ont assez, qui sont épuisés. Ils en veulent à leurs parents. Et c'est là que j'ai vu, moi, vraiment émerger un petit peu cette histoire de l'adolescence qui sortait un peu des ornières dans lesquelles sont les enfants, les ornières sociales, je veux dire. Et qui, à ce moment-là, se révoltent. Et je suppose que... Alors après, on voit apparaître, je l'avais dit l'autre jour aussi, la toxicomanie. Il y a de la délinquance un petit peu, il y a beaucoup de prostitution aussi, y compris des garçons. Et puis bon, il faut dire que les Occidentaux sont des bons clients pour ces choses-là. Donc voilà. Et c'est vrai qu'on a vu apparaître ces phénomènes, toute cette problématique qui a mis en relief. Et là, quand je vais y retourner, je vais essayer de consacrer une partie de mon séjour justement à rencontrer, parce que moi je suis beaucoup d'adolescents, c'est un travail que j'aime beaucoup en thérapie, en psychothérapie, et essayer de voir, parce que chaque fois que je vais, c'est vrai que je peux les aider un petit peu, les aiguiller, et que c'est un travail important qui est à faire actuellement, quoi. Voilà. Et je voudrais vous lire simplement une réflexion d'un professionnel qui a fait un travail de réflexion là-bas et qui expliquait donc que l'individu, ce que je vous disais l'autre jour, qui n'appartient pas aux parents, il appartient à la famille élargie, il appartient à la société, et que donc c'est un confrère qui disait l'individu doit intégrer son appartenance à un groupe pluriel et c'est cela qui fait son identité sociale. Donc vous voyez déjà la différence qu'il peut y avoir avec les jeunes occidentaux. Voilà.
On se quitte sur votre deuxième choix musical, Marie-Claude.
Voilà, alors j'ai choisi pour vous dire au revoir à tous, Youssoundour, Sabar, une chanson qui est un morceau qui est sympa. Voilà, à la semaine prochaine, au revoir.
Au revoir.
c'est Donald Kaimunden. C'est Donald Kaimunden. C'est Donald Kaimunden.